RMC.
J'ai apporté une sélection de plantes vivaces que nous pourrions échanger.
6h-7h, votre jardin.
Est-ce la 4 saisons?
Oui, je pense que oui.
Divine, la couleur tout autant.
François Sorel, Patrick Mulan.
Nous y sommes, 6h15, bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Avec beaucoup de plaisir, bien sûr, je vous accompagne en ce samedi et demain, dimanche matin. 6h-10h, c'est le week-end des experts, vous le savez. Le samedi et dimanche, on passe en mode loisir. Avec demain, 3h d'automobile, 7h-10h, Jean-Luc Moreau. Tout à l'heure, entre 9 et 10, la vie numérique. Ce sera avec mon camarade Raphaël Grably. Et en compagnie de Raphaël, on vous expliquera que demain, et peut-être même dès aujourd'hui d'ailleurs, votre smartphone va pouvoir, en quelque sorte, remplacer le médecin. On va tout vous expliquer tout à l'heure, c'est fascinant. Dans notre rendez-vous Forme Santé avec le docteur Christian Aiquet, on parlera de l'alcool. Alors peut-être on en a un petit peu abusé ces derniers temps avec les fêtes de fin d'année, mais c'est un sujet évidemment très très important et grave. On en parlera tout à l'heure de l'alcool avec Christian Aiquet dans notre rendez-vous Forme Santé. Le carrelage sera l'une des stars de la maison avec Christian PC tout à l'heure entre 7 et 8, mais pour débuter c'est le jardin. Patrick Mulan, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous, très très bienvenue au jardin, excusez ma voix, mais c'est l'hiver.
Eh oui, c'est l'hiver et Patrick Mulan a mis son habit de Barry White ce matin, justement avec la grosse chaîne en or, etc. et la grosse voix. Patrick, on va passer une heure ensemble, on est là jusqu'à 7h, vous le savez, vous pouvez dès maintenant nous joindre au 3216 pour poser vos questions au jardin. On est en direct, profitez-en, 3216 ou via l'appli RMC et direct studio. Au menu de cette heure dédiée au jardin tout à l'heure, on va faire face au froid dans le jardin parce que ça y est, les températures commencent maintenant à taquiner le zéro.
Ah bah déjà ce matin, ouais. Moi je suis sorti de la maison avec 0 degré, mais ça va baisser. Plus on va aller vers la fin de la semaine et plus on va avoir froid. On annonce, je crois que les températures les plus basses seront dans les Alpes de Haute-Provence, du côté de Barcelonnette. Un petit moins 14 d'annonce.
Ah quand même, hein. Ah, ouais, ouais. Bah. Bon, cela dit, cette saison, pas d'inquiétude, hein, c'est tout à fait normal.
Non, mais on va voir quand même ce qu'il faut faire quand même au jardin.
Et bien puis, sûr.
Comme il y a de la neige aussi qui est annoncée, on va voir aussi ce qu'on peut faire avec la neige.
Exactement. Donc, faire face au froid dans le jardin, vous avez des questions sur ce sujet. Tiens, il est 6h18, combien fait-il chez vous ce matin? Si vous avez un petit thermomètre et si vous voulez nous le dire, n'hésitez pas, via Direct Studio. On est curieux et on aimerait bien avoir ce type d'infos. On retrouvera aussi l'actu dans le monde du jardin, la météo du jardinier. Et puis, bien évidemment, je le disais, toutes vos questions au 32-16. On retrouvera d'ailleurs Pascal dans un instant qui va nous parler de son litchi. Merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on va commencer par le conseil de l'expert en ce samedi matin. Qu'est-ce qu'une plante dite rustique, Patrick? Vit-elle plusieurs années et comment connaître les limites de rusticité des plantes?
Alors déjà, le mot rustique, effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une plante est dite rustique lorsqu'elle est adaptée à un lieu précis au niveau de son climat. Mmh. C'est-à-dire que la rusticité, c'est la limite de température dans les conditions un peu extrêmes que la plante est capable de supporter. Alors, on parle essentiellement de la résistance au gel, parce que une fois qu'une plante est gelée, ben, en général, les tissus ont éclaté. On verra tout à l'heure, on en parlera dans la partie hivernale. Et ce qui explique, effectivement, la diversité de résistance. Il y a des plantes qui, on va dire, ne supportent pas en dessous de 15 degrés. Un cocotier, par exemple, vous pouvez pas le mettre dehors dans un jardin. C'est pas impossible. Sauf dans les pays où il ne gèle jamais. À l'inverse, le bouleau est une plante qui peut résister à moins 40 degrés.
C'est incroyable. Bah oui. Mais une plante rustique vit plusieurs années?
Alors, ça c'est très important comme question parce que souvent on confond le mot vivace, qui lui veut dire que la plante vit plusieurs années, avec le mot rustique. Mais vous avez des vivaces non rustiques. Je viens de vous parler du cocotier. Cocotier, ça vit des dizaines d'années.
Bien sûr.
C'est pas rustique. En revanche, vous avez des plantes qui sont annuelles et qui vivent un cycle annuel, certaines sont rustiques. Par exemple, vous avez des petites mauvaises herbes comme le pâturin annuel qui vient souvent dans nos gazons. Ça, c'est une plante qui a un cycle d'un an, mais pourtant, elle est rustique parce que elle est indigène. Indigène, ça veut dire qu'elle est originaire de l'endroit où on la trouve.
D'accord. On voit sur certains sites des indications de zones pour la rusticité des plantes. Ça correspond à quoi, en fait?
Alors, on voit des zones 1, ça va de 1 à 14, à 13, pardon, aujourd'hui. Enfin, je dis 14 parce qu'il y a zéro ici. Mm-hmm. Enfin, le zéro, c'est vraiment au cœur de l'Antarctique. Là, il n'y a pas de plantes. Alors, c'est quoi? C'est, en fait, des zones qui ont été créées par le département de l'agriculture des États-Unis, c'est USDA, en se basant sur les moyennes minimales recensées dans les 20 dernières années. Donc, il y a ces 13 zones qui vont de la zone 1 où vous avez moins 45,6 degrés, c'est le maximum.
Moins 45,6.
Voilà. Donc là, vous êtes vraiment carrément au, ah bah oui, au pôle nord ou au pôle sud.
Il y a des choses qui poussent là, cette température?
Non. À cette température-là, il y a. C'est pas 100% vrai. En Antarctique, il n'y a pas de végétal, mais en Arctique, il y en a. D'accord. Et puis la zone 14, qui est le minimum 15,5 degrés. Ça veut dire qu'en fait, on a là des plantes qui ne supportent pas moins de 15,5 degrés. Et nous, en France, ben on est au milieu. On est entre 5 et 10. C'est-à-dire que nos régions littorales se trouvent en zone 9. Alors 10, la zone 9, c'est de moins 1,2 à moins 6,6. Et la Corse, qui vous est chère, Menton, Nice, est en zone 10. Zone 10, où il peut y avoir moins 1,1 degré. Ça, c'est le plus bas qu'on a enregistré. Et jusqu'à moins 4,4. Donc, c'est des plantes qui sont, on va dire, à la limite du zéro degré. Là, pratiquement l'ensemble de notre pays, en plaine, se trouve en zone 8, c'est-à-dire entre moins 6,7 et 12,2 degrés.
Voilà, alors c'est vrai que si on est dans les Alpes, par exemple, on est à l'indice 5, ce qui est normal, hein, parce qu'on est en altitude.
Plus on monte,
forcément, hein.
Évidemment.
Est-ce que les valeurs données dans ces zones de rusticité sont valables?
Ben, elles sont valables, oui, puisqu'en fait, c'est pertinent dans Alors c'est pertinent surtout ce qu'on appelle la zone holarctique, c'est-à-dire la moitié nord du globe. Mmh. En revanche, c'est une méthode qui est pas complètement fiable au niveau du jardin, parce qu'elle ne tient d'abord pas compte des températures maximales que l'on a en été.
D'accord.
C'est-à-dire, vous avez donc des endroits où il fait très froid et très chaud, eh bien, on n'en tient pas compte, par exemple les déserts, et aussi, on n'a pas les différences un petit peu subtiles qu'il peut y avoir par rapport à l'effet ressenti. C'est uniquement donc des thermomètres qui enregistrent ces températures. Vous savez, il y a une grosse différence entre ce qu'un thermomètre vous indique et l'effet ressenti avec le vent, par exemple, avec l'humidité. Et ça, ça n'en tient pas compte, malheureusement.
Très bien, Patrick, évidemment on va évoquer tout à l'heure les températures basses dans quelques minutes, hein, puisqu'on évoquera
le
coup de froid qui arrive, hein, avec des températures très très basses. D'ailleurs c'est intéressant parce que sur Direct Studio vous êtes en train de réagir, 5 degrés ce matin à Grasse, vous rendez compte,
pas beaucoup quand même.
5 degrés dans les Alpes-Maritimes, alors Grasse c'est pas tout à fait au bord de l'eau.
Oui,
hein,
mais c'est doux, c'est très doux.
C'est
alors.
Très doux, hein. Moins 1 à Aix-en-Provence. Nous dit cet auditeur. Donc c'est pas beaucoup. Bon voilà, continuez à nous faire un petit coucou et à nous indiquer combien il fait chez vous actuellement. Oui Patrick.
Alors la rusticité c'est aussi une question de temps d'exposition au froid.
Ah oui.
Par exemple, vous dites ce matin moins 1 à Aix-en-Provence, mais ça va durer combien de temps? Une heure, deux
c'est
heures.
Et là, oui, parce qu'après, s'il fait beau, les températures remontent.
Voilà. Et là, les plantes résistent mieux aussi.
Ouais. Hein, en fait, les plantes détestent, certaines plantes, j'imagine, détestent, en fait, de longues périodes de froid comme ça. C'est ça qui les tue.
Moi, j'avais fait, il y a 2 ans, un essai avec des citronniers laissés dehors. On a eu des moins 1, moins 2 maximum. Mais pendant un mois, il n'y a pas un citronnier qui a résisté. Pas un.
Eh oui. On revient dans un instant, Patrick, et nous aurons Pascal au 32-16 qui aimerait faire pousser un litchi. Il aimerait avoir des conseils. Est-ce que c'est possible?
Mieux changer de pays.
Bon, vous restez avec nous, Pascal. Hein. Patrick n'a pas totalement répondu à la question. Et puis le 32-16, bien sûr, à votre disposition ou via l'appli RMC Direct Studio. On vous attend.
RMC, le week-end des experts, 6h-7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 6h28, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est le jardin. Patrick Mulan m'accompagne jusqu'à 7h. Un grand bienvenue à vous si vous venez peut-être de nous rejoindre. Et on salue tous ceux qui sont d'ores et déjà au travail. On sait que vous êtes nombreux et on vous remercie de votre fidélité. Patrick.
Oui.
Pascal est là au 32-16. On l'accueille tout de suite. Bonjour. Allez. Pascal.
Bonjour François, bonjour Patrick.
Bonjour Pascal.
Bienvenue. Vous et votre équipe.
Ah, c'est voilà. Gentil. Bonne année, mon cher Pascal.
Merci beaucoup. Je remercie pas Patrick pour ses encouragements, déjà au départ.
Ça commence bien, vous avez vu l'introduction.
Oui, l'introduction était pas mal.
En plus,
ça décourage déjà.
En plus, je vois que vous êtes dans les Alpes d'Haute-Provence, c'est ça?
Oui, mais alors, d'accord. je suis entre Digne et Sisteron, donc ce matin, on a un petit moins 1, hein, donc on est sur le même climat qu'Aix.
Ah, d'accord, ok.
Ouais.
Quelle belle région. Là, vous êtes.
Oui, c'est
sublime.
Digne, il est annoncé moins 12 jeudi. Hein.
Absolument. Alors, Digne, c'est complètement encavé entre les montagnes. Donc, il fait souvent 10 degrés de différence à cette période de l'année entre Digne et. J'habite un village, enfin une ville qui s'appelle Château-Arnoux.
D'accord.
Voilà, entre Digne et Sisteron.
Ah oui.
Ville de 5000 âmes.
Voilà. Très bien. Et donc, vous avez une passion pour les litchis, visiblement.
Voilà. Alors, j'aurais bien voulu, comme on me l'annonce au départ, j'avais des problèmes avec mon litchi. Non, j'ai pas de problème. J'aimerais bien faire pousser. Voilà. Alors, à force, j'ai pas réussi.
Vous allez pouvoir en faire germer, hein. Ouais. Vous allez pouvoir obtenir des plantules. Mais vous aurez jamais rien d'intéressant, hein. Il faut le dire. Moi, je l'ai fait. Hein, ouais. C'est assez sympa. Quand ça germe, ça va vous faire des feuilles. Alors, c'est des feuilles oblongues, hein, donc une sorte d'ovale pointu. Elles sont bronzes lorsqu'elles sont petites, puis après, ça se met à pousser. Le problème du litchi, c'est que c'est un arbre. C'est un arbre qui pousse en climat subtropical, qui ne supporte pas d'être attaqué, si je puis dire, par le gel. Alors, on en trouve en Floride, dans des endroits où parfois, vous pouvez avoir pendant une petite heure un petit zéro ou un petit moins un. Mais ça, il faut d'abord que le litchi soit adulte pour supporter ce type de climat. La plante, elle est originaire du sud-est asiatique. Elle vient de Chine, du Vietnam.
Et
vraiment, c'est vraiment pas un arbre qu'on peut cultiver chez nous. Alors, si vous voulez faire germer simplement pour le plaisir, il y a déjà une chose que vous avez dû remarquer, le noyau est particulièrement dur. Donc, la technique, c'est de le faire tremper dans de l'eau tiède, donc de l'eau à environ 25-26 degrés, pendant toute une nuit à minima. Ensuite, vous allez utiliser une terrine, ou un pot si vous n'avez pas beaucoup, dans lequel vous mettez un mélange, soit un terreau pour semis avec un petit peu plus de sable, ou un mélange de vermiculite et de terreau aussi, ça le fait très bien, donc il faut que ça soit très aéré. Vous allez placer les graines horizontalement. Moi, j'avais fait les deux essais, planter verticalement ou horizontalement. J'ai eu des meilleurs résultats horizontales à juste 5 mm en dessous de la surface.
Ouais, c'est ce que j'ai lu. Alors, sur Internet, si je peux me permettre juste de vous couper. Sur Internet, alors, ils préconisent de le planter, donc la partie plate du noyau sur le fond de terre. Et de laisser dépasser 1 mm, voire 2 mm du côté pointu du noyau, en fait. Voilà. Pour obtenir une germination.
Moi, je vous dis comment j'ai fait, ça a fonctionné.
Ouais,
parce que c'est pas tellement ça le plus important. Le plus important, c'est de mettre tout ça dans une, soit vous faites un sachet plastique de manière à avoir une sorte de cloche hermétique. Il faut que vous soyez à quasiment 100% d'hygrométrie, ou alors dans une mini-serre. Et ça, surtout, il va falloir placer tout ce monde-là sur la plaque de protection d'un radiateur, parce qu'il faut ce qu'on appelle une chaleur de fond. Et donc, si vous faites ça, là, vous avez une germination en 3 semaines environ.
D'accord, ok, bon.
Donc, vous trouvez aussi dans le commerce des mini-serres plastiques avec une résistance chauffante intégrée. Ça donne aussi de très très bons résultats pour ce type de semis.
D'accord, mais aucun espoir de pouvoir le mettre en terrain ensuite.
Vous pouvez continuer à le cultiver en pot. Le problème, c'est que c'est une plante tropicale. Donc, ce qu'il a besoin, c'est beaucoup de lumière. Et une chaleur, ça c'est pas difficile à la maison, mais surtout de l'hygrométrie. Et en fait, alors ce que je vous conseille aussi, c'est de faire un peu comme on fait avec les avocats, c'est-à-dire que lorsque vos plants de litchi vont atteindre une vingtaine de centimètres, vous aurez 5 feuilles environ. À ce moment-là, vous faites un pincement de façon à créer une ramification, et puis bien entendu, vous le rempotez à ce moment-là dans un terreau plutôt un peu acide, hein, un terreau dans le commerce, les terreaux, ils sont au pH 6 environ, ça convient bien. Hein. Mais bon, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de phénoménal.
Bon,
Mais c'est sympa à faire.
Ouais, en plus, il paraît que c'est une très belle plante, mais je lisais sur Internet qu'après, on pouvait très bien le mettre en terre et que ça pouvait atteindre 15 mètres d'eau.
Oui, mais si vous habitez Madagascar ou La Réunion...
Oui, non, je suis pas Madagascar.
Voilà, c'est ça le truc. Oui, c'est 15 mètres, c'est un peu la hauteur maximum. En production, on réduit un peu la hauteur des arbres de litchi à 8 mètres environ, de façon à ce que la récolte soit facile. Et la particularité, et aussi la faiblesse, je dirais, de la plante, c'est que les rameaux sont cassants. Et donc, vous avez pu remarquer que lorsque vous recevez vous achetez dans le commerce des litchis de La Réunion, eh bien, ils sont avec leurs branches. On a l'impression qu'on a bousillé l'arbre. Ben non, c'est pratiquement naturel. Et c'est comme ça qu'ils sont le meilleur aussi. Hein. Je signale à tous les consommateurs.
Bon, moi j'ai eu la malchance d'acheter des Madagascar cette année, l'an passé plutôt, et non, alors franchement pas bon.
Voilà. Mais vous avez totalement raison, d'autant que les Madagascar sont traités au soufre de façon à ce que ça leur permette de se conserver mieux. Et si vous avez regardé, la couleur elle est souvent un peu jaunasse, et ça c'est lié au soufre qui a été utilisé.
Pascal, je crois que vous aviez une deuxième question concernant le kumquat.
D'accord. Alors bon, j'ai un kumquat effectivement depuis 3 ans. Et puis alors là, c'est tentative sur tentative parce que j'essaie de multiplier. Et alors je sais vraiment pas comment le multiplier. Alors j'ai essayé toutes les techniques, conserver les graines du fruit, ça moisit, ça sert à rien. J'ai essayé de faire une ramification avec une bouture avec un morceau de branche, ça donne rien. J'y perds mon latin. Voilà. Mais mon kumquat, là, il est dehors, il est à moins de degrés, il tient bien le coup, ça fait 3 ans. Là, j'ai des fruits encore dessus, faut que je les ramasse d'ailleurs. Mais je sais pas du tout comment le reproduire. J'aimerais le reproduire.
Bah, on arrive assez bien à les semer. Il faut simplement que le fruit soit bien arrivé à maturité. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est aussi de faire stratifier les graines. Donc ça, les graines que vous allez récupérer, vous allez les mettre dans du sable, dans une terrine avec du sable, et après, l'hiver, une fois que l'hiver sera passé, au printemps, vous allez les semer. Ça, c'est une chose qui est assez importante pour ce genre de plantes. Très souvent, quand même, les agrumes que l'on trouve dans le commerce sont greffés. Parce qu'en fait, là, vous allez pas obligatoirement obtenir des kumquats en semant. Si vous avez, par exemple, des citronniers ou des orangers juste à côté, il peut y avoir une hybridation qui soit faite naturellement. Puisque, en fait, c'est des plantes qui sont beaucoup visitées par les abeilles. Mais vous obtenez quand même des petits arbustes qui sont sympathiques. Sinon, vous obtenez aussi ce qu'on appelle des porte-greffes. Il suffira après, derrière ça, de faire une greffe avec la variété.
Pascal, merci beaucoup. Et si tout comme Pascal, vous voulez discuter avec Patrick, échanger sur votre passion qui est le jardinage, profitez-en, on est là chaque samedi, 6h-7h sur RMC. Patrick Mélan, que vous pouvez joindre au 3216 ou si vous avez un smartphone, par l'appli RMC et Direct Studio. Vous nous laissez un message, c'est complètement gratuit, ça arrive en temps réel dans notre studio et on peut réagir bien évidemment sur ce message dès maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme température? On a moins 4 à Annecy. Par exemple, nous avons moins 8 à Langres, nous dit Jeanne. C'est pas mal quand même, hein. Moins 5 dans la périphérie de Belfort, qui est une région, enfin en tout cas qui est une ville réputée pour être très froide.
Ouais, assez fraîche, ouais.
Donc continue à nous faire un petit coucou concernant les températures. Il fait moins 2 degrés à Sablé-sur-Sarthe, nous dit Maxime.
Une information. Nous sommes en hiver.
On est en hiver, voilà. Ce qui est tout à fait normal, hein, visiblement.
Oui.
On est mi-janvier, donc c'est tout à fait ça. Justement, Patrick, notre jardin, est-ce qu'il est en danger avec les prochains coups de froid annoncés?
Alors, je disais avec l'interlocuteur précédent que dans les Alpes de Haute-Provence, on va avoir quand même des température relativement basse, hein, puisque il y a des moins 14 qui sont annoncés à Barcelonnette, par exemple, jeudi ou vendredi, mais là on est à 1400 mètres d'altitude.
Oui. Hein.
Donc voilà, il y a des moins 11 aussi en Haute-Savoie, du côté de Chamonix, jeudi. Bon, là c'est des températures froides, mais normales pour ces régions. En plaine, on va être sur des moins 4 degrés sous abri, notamment en Bourgogne, Franche-Comté, dans les Hauts-de-France. C'est pas complètement exceptionnel, mais pratiquement tout le pays va être à la fois sous le gel, et puis jeudi et vendredi, c'est neige assurée. Donc on est dans des conditions vraiment hivernales. Donc comme
mais on n'a pas un coup de froid exceptionnel, je veux dire, on est dans la normalité.
Non, le coup de froid est absolument pas exceptionnel, mais à force de nous seriner les oreilles avec le changement climatique et le réchauffement, à force de se mettre dans la configuration par rapport à cet été qui a été extrêmement chaud, extrêmement long, on se dit tiens, on est vraiment devenus presque tous des Méditerranéens. Eh ben non, vous voyez, c'est pas vrai. Donc il faut vraiment prendre les précautions nécessaires et surtout faire attention dans votre choix de végétaux de manière à pas essayer d'acclimater des plantes qui sont pas tout à fait de la région, ou du moins qui sont pas adéquates à la région. Donc par exemple, mon cher François, vos petits citronniers, bougainvilliers, etc., faut leur mettre les petits pyjamas, là, parce que ça va pas le faire.
Alors, puisqu'on parle de mes citronniers, ils sont collés à la baie vitrée,
encore à l'extérieur.
À l'extérieur. Et petits pyjamas.
Et un petit pyjama.
Voilà.
Alors attention dans les, ce qu'on appelle avec François les petits pyjamas, à savoir donc les voiles d'hivernage, toutes les protections hivernales doivent être retirées dès que les conditions sont meilleures.
Sont meilleures.
De façon à ce que la plante puisse bien s'aérer. Et n'oubliez pas une chose aussi, c'est que pendant les périodes de vrai gel, il n'y a pas d'eau disponible pour les plantes. Et pour les plantes en pot, ça peut être catastrophique.
Ouais.
Donc ça, il faut essayer que la terre des pots ne gèle pas.
En revanche, ce qu'il y a d'embêtant, c'est que à l'endroit effectivement où je poste mes citronniers qui donc sont près de la baie vitrée, il y a moins de soleil que à l'endroit où ils étaient habituellement. Donc c'est vrai que il va peut-être protéger des températures basses, mais il sera moins exposé au soleil que s'il était installé auparavant.
De l'année, c'est moins important.
C'est moins important, ouais, c'est clair. Comment les plantes réagissent face au froid et au coup de froid, Patrick ?
Alors, on a évoqué tout à l'heure, mais c'est important de le redire, la durée du gel est presque plus importante que son intensité. Il y a un autre facteur qui est considérable et dont on ne tient pas assez compte, c'est la vitesse de dégel. Parce que plus vous avez des alternances gel, dégel, gel, dégel, et plus les plantes sont en danger. Tout simplement parce que lorsque le gel donc arrive sur la plante et solidifie le liquide qui se trouve à l'intérieur des cellules, vous avez forcément une extension, une expansion. La glace prend plus de volume dans un verre. Si vous remplissez un verre jusqu'à ras-bord et que vous le mettez dans le réfrigérateur, vous allez voir que l'eau, elle va déborder vous allez avoir une sorte d'iceberg qui va monter. Donc, ça, c'est important. Et puis, vous avez des plantes qui résistent différemment. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dès la chute des feuilles, ça, donc, déjà, vous avez une indication, les plantes à feuillage caduques sont généralement plus résistantes au froid que les plantes à feuillage persistant.
Donc, oui, parce qu'elles se mettent vraiment en mode dormance, quoi. Voilà, on laisse tout tomber.
Et surtout, vous avez des réserves d'amidon qui ont été stockées pendant l'été dans le bois et de l'écorce, qui se transforment. L'amidon, c'est un sucre soluble, et qui fait quoi le sucre ? C'est de l'antigel, tout simplement.
Simplement.
C'est-à-dire que quand vous avez de l'eau sucrée dans les cellules, elle gèle pas à 0 degré. Alors que si vous avez que elle gèle à 0 degré.
Et de l'eau sucrée gèle à combien ? Enfin, remarquez, tout dépend du taux de
ça
sucre.
Ça dépend du taux, mais en général, vous allez avoir un gain qui est entre 3 et 5 degrés facilement au niveau de la résistance. Et puis, de l'autre côté, pourquoi est-ce que les agrumes, on dit toujours, faut les protéger ? Mais parce que eux n'ont pas de dormance hivernale. Ils sont en fleurs, ils produisent, etc. Ils sont là toute l'année.
Mais alors, donc, on a bien compris que les plantes pouvaient geler, mais est-ce que on sait pourquoi elles gèlent ?
Elles gèlent tout simplement parce que c'est comme les canalisations des tuyaux dans la maison. Quand vous avez de l'eau qui passe sous forme liquide, tout va bien. Et puis encore une fois, quand elle se met à geler, eh bien, il y a une expansion et il y a pression sur les bords. Et quand il y a pression sur les bords, la membrane de la cellule, elle, à un moment donné, elle cède. Paf ! Et elle s'ouvre.
En fait, c'est comme si la plante implosait, quoi, en quelque sorte.
Oui, exactement, parce que c'est une pression qui vient de l'intérieur. Et donc, la cellule éclate. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le tissu, lui, s'affaisse. Vous avez une sorte de plante qui est hyper gorgée d'eau. Et à ce moment-là, vous avez de la pourriture qui vient se mettre dessus. Donc, vous avez vraiment une sorte de cascade d'événements qui entraînent vraiment des problèmes graves. D'autant plus que la congélation, c'est-à-dire la formation de glace, lorsque elle attaque les organites, c'est quoi les organites ? C'est les petits éléments qu'on a à l'intérieur des cellules, les mitochondries, les chloroplastes, etc. Si ça aussi, ça gèle, eh bien les fonctions vitales de la cellule, elles, sont complètement dégradées.
Patrick, on va s'intéresser dans un instant aux symptômes que présente une plante qui a souffert du gel, parce que sans doute que ça va arriver. Les interventions à ne pas réaliser au jardin en période de gel. Est-ce que la neige aussi a son effet sur le jardin? Parce que on l'a dit, certaines régions vont être enneigées. Bah, est-ce que ça a un impact? On en parle dans un instant.
Favorable.
Ah, et ben oui. Et vous allez nous expliquer pourquoi, vous allez voir. C'est un peu comme l'igloo. Le 32-16, ou bien via l'appli RMC Direct Studio, vous voulez réagir face au froid dans le jardin. Est-ce que vous avez préparé votre jardin? Est-ce que vous avez des questions spécifiques concernant une plante? N'hésitez pas, 32-16, l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Le retour du week-end des experts, c'est le jardin, 7h moins le quart. Merci d'être là. Un excellent week-end avec RMC. On fait un coucou notamment à Jordan qui est boulanger en place dans le Fournil depuis 4h du matin à Béziers. Il fait moins 4. Ou plus 4, je crois, à Béziers actuellement.
Ou peut-être plutôt plus 4.
Oui, voilà, oui. C'est ça. Oui, Béziers, c'est quand même plus clément. Et Jordan nous garde des pains en chocolat. Sauf qu'il faut aller quand même à Béziers pour les manger. Donc, oui. C'est pas gagné.
Tant qu'ils arrivent chez nous, ils vont être congelés.
C'est ça. En tous les cas, n'hésitez pas à réagir ce matin. On évoque le froid et les plantes. Hein. Vous savez, Météo France annonce une petite vague de froid dans les jours qui viennent. Et forcément, le jardin va trinquer. On en parle avec Patrick Mulan. N'hésitez pas à toutes vos questions 32 16 ou via l'appli RMC et Direct Studio. Patrick, on a évoqué donc la réaction du gel hein, face aux plantes, mais qu'est-ce qui se passe si une plante a souffert du gel? Comment on le voit en
Alors on le voit, alors celles qui sont très fragiles, on le voit tout de suite. Par exemple, si vous avez des cordylines, là nous on en avait dans le jardin, on aime bien mettre ça chaque année, on les laisse et puis ça se flétrit, ça devient marron. Les tiges noircissent, elles deviennent molles. Donc là, vous savez.
Ça crame, quoi. C'est comme si c'était cramé, non?
Comment dire? Non, c'est flétri, quoi.
C'est flétri.
Non, c'est pas cramé, c'est ramolli, quoi.
D'accord.
C'est avachi.
Ouais. Ouais.
Avec un changement de coloration net, marron, brun, etc. Alors, parce que ça, c'est les dégâts les plus visibles. Sur des plantes qui, alors, soit sont en dormance, soit sont même complètement absentes visuellement. Vous avez beaucoup de plantes vivaces, donc on n'a que la souche qui se trouve dans le sol, qui reste là en dormance et qui peut être aussi agressée. Alors là, il faut des gros froids, mais là, vous ne verrez qu'au printemps. C'est-à-dire que ça ne redémarrera pas, par exemple. Voilà. Mais donc, lorsque la plante s'est avachie, elle est devenue flasque, c'est parce que les cellules ont éclaté. Je voudrais quand même préciser par rapport aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, que dans les végétaux à feuillage caduc, l'entrée en repos végétatif fait que vous avez une dessiccation des cellules, c'est-à-dire un vidage partiel de l'eau, ce qui fait que les cristaux de glace peuvent alors se former sans pousser sur la membrane, puisqu'ils ont tout simplement de la place. Ça aussi, c'est une manière intelligente, si je puis dire, des plantes.
Oui, c'est-à-dire qu'elles se gardent la marge, en quelque sorte.
Exactement, François, exactement. Alors, l'eau, donc, il faut savoir qu'au niveau du sol, il y a quand même une véritable agression, puisque l'eau qui est dans le sol, entre les particules de terre, va augmenter aussi de volume. Ça peut comprimer, voire jusqu'à blesser des racines, notamment pour les plantes en pot. Alors, généralement, les racines, elles sont protégées suffisamment. Il y a une enveloppe de liégeuse autour pour limiter les dégâts. Mais un sol gelé et qui se dégèle et qui regèle, c'est quand même pas une bonne chose. Et puis, sachez aussi une chose, par rapport à ce qui s'est passé cette année avec un été extrêmement stressant pour les végétaux, eh bien, vous pouvez avoir quand même une plus grande fragilité.
Bien sûr.
Parce que c'est un nouveau stress, le gel.
Et donc, puis peut-être le froid aussi l'année dernière, non? Moi, mon citronnier souffert, non? Alors, il est pas, comment dirais-je, ouais, un petit peu affaibli du coup de froid qu'il a pu se prendre l'année dernière?
Vous avez raison, mais je pense qu'il s'est refait une santé.
Il s'est refait une santé, d'accord.
Mais en revanche, une plante qui est vraiment limite, par exemple un mimosa. Un mimosa, c'est autour de moins 5, moins 6 degrés. Un coup de gel, il peut avoir la partie extérieure qui disparaît totalement. Ça redémarre au printemps. Deux coups de gel, Bonjour les dégâts, comme on dit.
Que, oui, il voilà. on a droit à un joker, mais pas de en voilà. loin.
Général.
La neige, Patrick, pour terminer. Alors, est-ce que c'est bien ou pas pour le jardin?
Mais la neige, c'est un manteau. La neige, c'est quoi la neige? C'est des cristaux de glace qui ont été expansés, un petit peu comme si c'était des pop-corn de glace, si je puis dire. C'est un peu une vision un peu personnelle. Hein. Mais donc c'est de l'air en même temps. Donc un manteau neigeux, c'est bien un manteau. Parce que dans la neige, vous avez à avoir une température autour de moins 1 degré minimum. Donc vous allez avoir, si vous avez au-dessus du manteau neigeux un gros coup de gel, eh bien vous allez avoir un effet très très protecteur. Donc ça c'est vraiment une chose importante. Vous pouvez donc avoir les plantes qui se trouvent sous le manteau neigeux, qui bénéficient pendant ce temps-là même des remontées caloriques naturelles, hein, de ce que l'on appelle tout simplement la géothermie, qui fait que vous avez des fleurs qui sortent parfois au niveau du manteau neigeux. Les personnages, hein, le nom est bien donné, bah ça peut sortir complètement de la neige. Alors, on dit la neige a un effet néfaste sur les plantes, évidemment, c'est assez lourd, ça peut peser jusqu'à 500 kg par mètre cube quand elle est bien tassée, la neige, donc elle peut casser des rameaux. Mais il suffit de secouer un tout petit peu, et puis vous avez plus de problème.
Patrick, voilà ce qu'on pouvait dire. On reviendra peut-être la semaine prochaine aussi sur le froid dans le jardin, parce qu'on a encore énormément de sujets à évoquer. On n'a pas évoqué les plantes en pot, etc. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on y revienne la semaine prochaine.
Eh ben, écoutez, hein, ça sera avec plaisir.
Est-ce que l'heure tourne? Il est 6h50. La météo du jardinier, finalement, on l'a un peu évoqué, vous l'avez compris, hein, tous aux abris pour la semaine qui vient.
Exactement. C'est pas une semaine de jardinage, vraiment.
Voilà. Tranquillement. Et je vous invite maintenant à accueillir Daniel qui nous attend au 32-16. Bonjour, Daniel.
Bonjour
Daniel,
oui,
et bienvenue.
Bonjour
Daniel. Bienvenue sur RMC. Et très bonne année Daniel, on peut le dire encore, donc on en profite.
Vous aussi.
Merci, on vous écoute.
Eh bien écoutez, je vous ai envoyé un petit mail. Oui. Voilà, j'habite Marseille, mais j'ai une maison en Périgord. Et j'ai des noyers. Et quand on arrive à la saison du ramassage des noix, elles sont percées. Je vous avais fait une photo, je ne sais pas si vous l'avez vue.
On me l'a glissé, Daniel, donc je le laisse sous les yeux.
D'accord, donc vous voyez les dégâts. On doit avoir le tiers de noix qui ne sont pas attaquées. Alors, comme pour l'instant, ils ne sont pas très gros, on n'a rien du tout. Donc, je voudrais savoir quel est le prédateur et si je peux faire quoi que ce soit.
Alors, le prédateur, bon, juste avec les trous dans les noix, il peut y avoir plusieurs, hein, ça peut être... Ça se passe sur l'arbre directement
sur l'arbre, oui, sur l'arbre.
Alors, ça peut être sur l'arbre, ça peut être trois. C'est, bon, il y a peu de chances que ça soit les écureuils, mais ça pourrait. Bon, mais les écureuils, souvent, ils emmènent les noix entières.
Oui.
Bon, peut vraiment être des oiseaux. Ça peut être des oiseaux, mais ça peut surtout, à mon avis, être des insectes. Des insectes du... Alors, les balanins sont surtout des insectes qui sont destinés aux noisettes. Mais il y a des insectes assez similaires, donc des coléoptères, qui viennent...
Je pense pas que ce soit des insectes, parce qu'elle est nettoyée complètement dedans. Il y a rien, il n'y a plus rien à manger.
Ben oui, mais ils consomment.
Non, mais quand même. Vous voyez, il n'y a pas de résidus, il n'y a pas... Je sais pas. Donc les baladins, on peut faire quoi?
Aujourd'hui, malheureusement, on peut plus faire grand chose puisque vous le savez, le 1er janvier, on n'a plus d'insecticides. On va dire d'origine chimique à notre disposition. En plus, un noyer, c'est quand même une grande, grande plante.
Eh oui, c'est grand.
Sur ce genre de choses-là, les précautions, elles sont complexes parce qu'en fait, si vous avez vraiment des insectes qui sont omniprésents, il faudra quand même passer par un traitement. Donc vous avez encore les pyrètres naturels qui sont efficaces, mais il va falloir, alors de deux choses l'une, parce que bon là j'ai juste la photo comme ça c'est pas si évident. Soit c'est un insecte parce que il est venu lorsque la noix était tendre, l'adulte pond dessus. Et c'est la larve de la noix, la larve de l'insecte qui s'est nourrie entièrement du contenu de la noix, ce qui fait qu'effectivement vous avez plus rien. Puis qu'est-ce qu'elle a fait cette larve? Elle a voulu sortir, donc elle a fait le trou qu'on voit sur la noix.
Bien sûr.
Et donc il faut traiter,
donc elle tombe après au sol,
lorsque les noix sont vertes, de façon à ce qu'effectivement l'insecte lui ne puisse pas pénétrer à l'intérieur.
Daniel, merci pour votre appel. Patrick, on va se quitter avec un petit coup de cœur de cette semaine.
Oui. Pour terminer, je pense qu'il y a aussi un Carpocaps, qui est un papillon.
Oui.
Qui donne aussi ce genre de choses, mais le traitement sera le même, bien qu'il existe aussi des phéromones pour savoir quand est-ce qu'il vole. Alors, les coups de cœur de cette semaine, c'est des livres pour, on va dire, un peu les experts, mais je voulais avoir un peu de temps en temps aussi, pas que des choses pour les débutants. Vous avez chez Delachaux et Niesley, Évolution. Évolution, une grande histoire du vivant qui a été écrite par des dizaines de scientifiques d'origine anglaise et qui vous explique en 576 pages, c'est quand même copieux, bien tout ce qui s'est passé au fur et à mesure de l'évolution de notre planète. Ça commence il y a 3 milliards 400 millions d'années avec ce qu'on appelle les stromatolites et puis ça va jusqu'aux humains. C'est un très beau livre, c'est très intéressant, c'est un petit peu pointu, voilà. Et puis j'ai aussi, alors
on peut le garder pour la semaine prochaine si vous voulez.
Compostage, ça sera la semaine prochaine.
Mais voilà,
alors ça, il y en a 664 pages sur le compost et le compostage.
Eh bien, dites-moi, mais on y reviendra la semaine prochaine.
La
Patrick.
Semaine prochaine.
Je vous bouscule un petit peu parce que dans un instant,
Christian Pesset est arrivé en trombe.
Mais oui, je suis là.
On va retrouver la météo, les infos. Patrick, on se retrouvera avec beaucoup de plaisir samedi prochain, 6h-7h. Vous le savez, le jardin sur RMC.
Voilà, j'aurai récupéré ma voix.
Oui.
La grosse bise à toutes les jardinières. Mais bonne année à toutes.
Faut prendre de la cortisone.
Et retrouver.
Et ma petite jardinière aussi, je l'oublie pas.
Et retrouver Patrick Mulan en concert avec Barry White dès la semaine prochaine. Toutes les grandes villes de France.
Ou en vidéo sur le journal TV, c'est peut-être plus sûr.
Ah, c'est sûr, d'accord. Patrick, à la semaine prochaine et bon rétablissement pour la voix.